Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui et à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et Amélie Carrère de TF1 LCI. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Cette émission est bien sûr en direct. Vous pouvez interpeller notre invité sur tous les réseaux sociaux, hashtag Le Grand Jury. Et vos questions lui seront posées en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad. Alors Yannick Jadot, la présidentielle, vous vous y préparez, c'est vous qui l'avez dit, mais vous qui appréciez le Tour de France, je ne fais là aussi que vous citer, sous quel maillot entrerez-vous dans la course ?
Jaune.
Sera-t-il... Ben on verra. Je pensais que vous alliez me dire vert. Sera-t-il aux couleurs de votre parti Europe Écologie Les Verts ? On commence à en douter, car plus vos ambitions s'affirment, plus vous semblez vous affranchir de vos camarades et réciproquement, eux, de vous. Sur la place de l'entreprise, sur la laïcité notamment, sur le vaccin aussi contre le coronavirus, autant de sujets que nous évoquerons bien sûr et sur lesquels vous ne faites pas forcément l'unanimité dans votre propre camp. Alors arriverez-vous à les persuader, vos amis, que vous êtes l'homme de la situation, tout comme il ne sera pas aisé de convaincre les Français que l'écologie est une priorité. Elle arrive, Yannick Jadot, toujours très loin derrière la lutte contre la pandémie, le chômage ou bien encore le terrorisme. Après les européennes et les municipales, le plus dur reste encore à faire pour vous, la prise de conscience. Tout cela, nous parlerons bien sûr dans cette émission. Mais avant cela, la pandémie, elle est toujours là et les fêtes de fin d'année n'en seront peut-être pas vraiment. Première question, Marion Mourgue.
Yannick Jadot, le Premier ministre Jean Castex a annoncé des mesures plus drastiques. Est-ce que pour vous, par exemple, le 31 décembre, il fallait lever le couvre-feu ? Est-ce qu'il n'y a pas un système de poids, de mesure qui est fixé par le gouvernement ?
Je crois pas. On est face à une pandémie dramatique. On sait que ce virus frappe le monde entier, qu'il est mal connu, dont on voit bien que les cycles, y compris qu'on essaye d'anticiper, ne se déroulent pas tel qu'on pouvait l'imaginer. Donc il faut beaucoup de discipline, il faut des règles strictes, mais pour que ces règles soient comprises, entendues, appliquées, respectées par les Françaises et les Français, il faut que ces règles soient justes.
Qu'est-ce qu'on a fait les justes entre le 24 et le 31 ? Pourquoi le 24 couvre-feu ? Pas de couvre-feu ?
Parce que
le 31.
Parce que le 24, c'est familial. Donc la logique, c'est quand même que vous ne faites pas une fête à 30, 40, 50 personnes comme on peut le faire pour un réveillon du jour de l'an. Que c'est plus autour de la dinde ou d'autres, mais que simplement pour danser. Donc je pense que malheureusement, cette règle est juste. En revanche,
Chorbière dit que c'est pas très laïque. Il y a une forme. Est-ce que vous trouvez que le débat est dépassé ?
Je pense que Noël aujourd'hui est une fête dans le monde entier. C'est devenu souvent une fête d'ailleurs pour toutes les religions et pour ceux qui n'ont pas de religion. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. En revanche, là où la règle n'est pas comprise. Et n'est pas juste, c'est pour le secteur de la culture.
Alors justement, est-ce qu'il fallait lever ces restrictions, ces interdictions ? Je prends l'exemple de l'acteur Charles Berling. Il parle carrément d'une haine de l'artiste. Est-ce que vous dites c'est la preuve d'une haine de l'artiste en France ?
Je ne dirais pas que c'est une haine de l'artiste. Mais clairement, ce gouvernement a décidé de sacrifier la culture, qui arrive comme le dernier des secteurs. Vous vous rendez compte qu'on a une conférence de presse du Premier ministre ? À chaque conférence de presse du Premier ministre, vous avez les ministres de tutelle qui sont là. Quand on parle de la culture, vous n'avez pas le ministre de la culture, la ministre de la culture, vous n'avez pas le ministre de l'économie. J'aimerais rappeler que la culture est évidemment essentielle, que les écoles de musique, les salles de spectacle, les cinémas avaient travaillé et ont travaillé à un protocole sanitaire extrêmement sérieux, qu'ils envisageaient, qu'on leur avait promis la reprise, et qu'aujourd'hui, non seulement on les sacrifie en disant « finalement, vous n'êtes pas une activité essentielle, vous n'êtes pas des personnes essentielles ». J'aimerais rappeler quand même qu'il y avait un rapport du gouvernement qui disait que la culture, c'était 7 fois la valeur ajoutée de l'industrie automobile.
Mais concrètement, vous proposez quoi? Vous dites qu'il faut les réouvrir maintenant?
Il faut les réouvrir.
Dès demain?
Il faut les réouvrir comme c'était prévu.
Dès le 15, dès mardi.
Il est totalement aberrant aujourd'hui que des cinémas, que des théâtres, que des écoles de musique, que le spectacle vivant ne puisse pas travailler alors qu'ils ont élaboré des règles sanitaires très strictes.
Le gouvernement met en avant le brassage de population pour reprendre les arguments scientifiques sur lesquels il se base.
Vous avez un rapport dont on attend la sortie, qui nous a expliqué qu'il n'y avait pas de risque de propagation du virus avec les petits commerces. Et pourtant, ce gouvernement avait choisi de fermer les petits commerces malgré, encore une fois, les protocoles sanitaires très stricts.
Mais il y a un couvre-feu, ça voudrait dire quoi? Qu'on lève le couvre-feu uniquement quand pour des dérogations culturelles, c'est ça? On maintient un couvre-feu pour ceux qui vont au théâtre, au musée?
Absolument.
Et au cinéma,
je pense qu'on peut, encore une fois, parce que ces salles de spectacle, comme toutes les activités culturelles, la culture, c'est pas simplement des cinémas et des salles de spectacle. C'est aussi l'apprentissage pour les enfants. C'est plein de choses.
Donc vous le demandez solennellement au président de la République.
Je demande la réouverture de toutes les activités culturelles sous protocole sanitaire strict. Je crois que quand on voit l'état de notre société, l'état au mieux de fatigue, de lassitude, au pire de dépression, la culture, c'est quand même... on ne peut pas simplement survivre dans ce moment-là. Il faut aussi continuer à s'épanouir. Et à partir du moment... Et je le répète, ça fait plusieurs fois que je le dis, sous protocole sanitaire strict, l'accès à la
aujourd'hui,
culture.
Il y a quelque temps, étaient critiquées les mesures parfois strictes ou absurdes, disaient certains de la France. Aujourd'hui, ce sont ces mesures, parce qu'elles étaient strictes au bon moment, qui sont saluées, ne serait-ce que par nos voisins allemands, qui, eux, maintenant, vont intensifier les restrictions. C'est les écoles qui vont fermer la semaine prochaine en Allemagne.
Vous savez, chaque pays est face à une évolution du virus qui ne correspond pas forcément à celle du voisin. On a des pays qui aujourd'hui s'en sortent mieux, et encore, il faut regarder les régions, parce que quand vous regardez le détail des régions, la région, par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, est en difficulté du point de vue sanitaire, ce qui n'est pas forcément la moyenne française. Donc il faut regarder chaque région, il faut regarder chaque situation. Mais je l'ai dit, il y a un enjeu de contenu. Pour que la règle soit comprise, il faut qu'elle soit juste. Sur la culture, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas non plus sur l'université et les grandes écoles.
C'est-à-dire, on rouvre aussi toutes les universités.
Vous vous rendez compte, le Premier ministre, quand il est interrogé sur les 3 millions d'étudiants, c'est le savoir. C'est leur formation, c'est une jeunesse qui est percutée de manière extrêmement dramatique par cette pandémie. Et le Premier ministre dit, il a une pensée.
Mais vous pensez qu'ils le font de gaieté de cœur, Yannick Jadot? On vous entend se dire, est-ce que vous pensez que le gouvernement ferme les lieux de culture et les lieux d'éducation de gaieté de cœur? Ils le font pour des raisons sanitaires,
non? Je n'ai pas un seul doute sur le fait qu'il y ait beaucoup de décisions difficiles à prendre. Mm-hmm. Des décisions qui nécessitent un certain courage, puisque ça va à l'encontre de notre liberté de mouvement, ça va à l'encontre de notre capacité à travailler. Vous parlez, comme moi, avec les artisans, les indépendants, qui sont dans une situation absolument dramatique, absolument dramatique. Rien n'est facile. Mais alors, du coup, Monsieur Sportouche, la question, c'est la méthode. Vous le savez, depuis le début de cette pandémie, j'ai appelé le président de la République à organiser un conseil de sécurité sanitaire autour des scientifiques, ayant les principales forces politiques et les principales forces vives du pays, syndicats, patronats, associations très impliquées.
Alors sur ce point,
justement sur le point de la méthode, est-ce que vous dites le gouvernement aujourd'hui et Emmanuel Macron sont trop dirigistes? Justement, ils n'associent pas assez l'ensemble des forces politiques pour les décisions qu'ils sont en train de prendre. Est-ce que vous allez jusque-là et est-ce que vous parlez justement de faute politique dans les décisions qui sont prises?
Là, en tout cas, la méthode choisie par le président de la République, qui est une méthode d'exercice bunkérisé du pouvoir. Il décide seul. La décision sur la culture de la semaine dernière. Vous vous rendez compte que les représentants du monde de la culture n'étaient pas au courant de la décision qui allait être annoncée. Dans quel monde on vit pour que le président de la République où le Premier ministre, à un moment, décide seul,
vous savez très
sans concertation.
Bien que quand il y a une urgence sanitaire, les Français veulent aussi décisions urgentes.
Ça fait un an.
Alors ça veut dire qu'on est dans un pouvoir autoritaire. Est-ce que vraiment on peut dire qu'on est dans un pouvoir autoritaire? On a l'impression que c'est même ça que vous vous entendez. Est-ce que c'est pas un peu caricatural?
Non, parce que quand vous mettez de côté les maires, quand vous mettez de côté les syndicats, les présidentes et les présidents de région, quand vous mettez de côté l'Assemblée nationale et l'ensemble du Parlement, à un moment donné, non seulement vous ne contribuez pas à ce que la règle construite dans cet univers d'incertitude, je le répète, dans certains univers d'incertitude qui touchent tous les pays du monde, vous ne construisez pas une règle qui est facilement adoptée, acceptée par l'ensemble des Français. Et pourtant, ils l'appliquent. Les Français les appliquent.
Sur l'isolement, par exemple, était envisagé un débat parlementaire pour essayer de trouver un consensus. Il a consulté le Premier ministre et dit il n'y a pas de consensus, dont acte. Ok, on ne le fait pas comme on l'avait envisagé. Est-ce que là, il ne vous prouve pas qu'il prend en compte notamment les voix de l'opposition?
Ayons des débats... Encore une fois, c'est une situation qui dure. Vous, depuis maintenant 10 mois, le président de la République aligne des décisions d'urgence derrière des décisions d'urgence. Il se met, c'est même plus le Conseil des ministres qui décide. C'est un Conseil de défense, bon, bref.
Mais enfin, il y a un Conseil d'État, un Conseil constitutionnel qui sont là en garant. À vous entendre, on a l'impression qu'il n'y a aucun contre-pouvoir.
La démocratie, attendez, la démocratie, et notamment quand on est face à une pandémie, c'est que chacune, chacun se sente d'une façon ou d'une autre partie prenante de la délibération et de la décision.
Alors, l'isolement.
Il ne s'agit pas de faire un référendum sur chaque décision. Mmh. Mais quand vous avez un débat à l'Assemblée nationale, regardez par exemple, ce n'est pas le Congrès, ce qui s'est passé aux États-Unis sur la validation du vaccin. Ils ont retransmis en direct la discussion entre les experts pour valider ou pas le vaccin. Eh bien, voilà un exercice démocratique. Personne ne dit que la décision est simple, mais au moins, vous comprenez quels sont les tenants et les aboutissants des décisions. Et
ça, c'est
essentiel. Sur l'isolement, on fait quoi ? Sur l'isolement, c'est quoi votre position ?
Sur l'isolement, il faut mettre les moyens aujourd'hui pour accompagner les personnes testées positives pour qu'elles puissent s'isoler chez elles au mieux quand on ne peut pas les isoler dans un hôtel.
Et vous voulez un débat parlementaire là-dessus ?
Mais parfaitement.
Est-ce que vous voulez Alors très bien, on vous entend. Et le président de la République a dit, on verra s'il a lieu ou pas. Visiblement, on n'en est pas sûr. Mais sur la vaccination obligatoire, puisque vous le souhaitez, est-ce que vous souhaitez un débat parlementaire sur la vaccination obligatoire ?
Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la transparence absolue sur ces vaccins. On ne l'a pas aujourd'hui. C'est un vrai... Si les entreprises...
Vous voulez dire de la des vaccins, ou du gouvernement?
Si les laboratoires pharmaceutiques avaient voulu créer du doute dans la société, ils ne s'y seraient pas pris autrement. On fait des communiqués de presse, le patron de Pfizer qui engrange des millions le jour de l'annonce, si on avait voulu montrer que le Big Pharma est plus intéressé par l'argent que par la santé, j'arrive, ils ne s'y seraient pas pris autrement. Mais nous avons cette responsabilité absolue qui est de sortir notre société de cette crise terrible qui la percute. Et donc, pour ma part...
Avec le vaccin, parce que vous aviez dit, on rappelle pour nos auditeurs,
et on se bat. Les Yannick écologistes...
Yannick Jadot, rappelons pour nos auditeurs que vous étiez positionné en faveur de la vaccination obligatoire.
Oui.
Il n'y aura pas d'obligation vaccinale, dit le président de la République. Dans vos rangs, d'ailleurs, ça a plutôt fait débat.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Vous, président Yannick Jadot, vous dites quoi aujourd'hui ? Vous dites, on oblige, même s'il y a de la défiance ou de la méfiance ?
Je dis, essayons, évidemment, ça a toujours été notre discours. En ce moment, le combat qu'on mène au Parlement européen, c'est pour avoir la transparence complète des contrats passés par la Commission européenne au nom des États européens avec les laboratoires. Il faut cette transparence, c'est le minimum pour commencer à construire de la confiance. Après, moi, je veux évidemment qu'on fonctionne par adhésion à la vaccination, qu'on choisisse, comme ça a été prévu d'ailleurs, et ça va dans le bon sens, des personnes d'abord les plus vulnérables. Et puis, petit à petit, on essaye d'élargir. Mais si en dernier ressort, je vais vous le dire, si en dernier ressort, le choix est entre rester confiné, avoir l'explosion des envies suicidaires des étudiants, les petits commerces, les artisans et l'ensemble de la population qui ne peut pas sortir, eh ben, je dis que, en dernier ressort, eh ben oui, pourquoi pas la vaccination
en dernier ressort, on n'arrive pas très bien à comprendre ce que
mais
ça
si,
veut dire.
Parce que si vous voyez bien qu'on va fonctionner par étapes, on va vacciner demain dans les EHPAD.
Oui.
Bon. Après, on vaccinera les personnes les plus âgées. Après, on descendra dans le reste de la société. Eh bien, moi, je souhaite qu'on ait construit la transparence, la confiance et l'adhésion à cette sortie de crise qui nous permettra d'éviter une vaccination obligatoire.
Vous insistez sur le terme de transparence. Vous dites aujourd'hui, finalement, on n'a pas les informations nécessaires pour se faire vacciner. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on sait, vous êtes prêt à vous faire vacciner demain, à la limite pour donner l'exemple et créer cette adhésion des Français, ou vous dites, finalement, j'attends un peu de temps, j'attends le vaccin français?
Non, j'attends pas le vaccin français.
Donc aujourd'hui, avec ce qu'on sait, vous êtes prêt à vous faire vacciner?
Il y a des autorités européennes et des autorités françaises qui vont, comme c'est toujours le cas, regarder, évaluer si les autorisations sont données, évidemment que je me ferai vacciner. Après, je suis pas la première des populations cibles. Donc, j'attendrai mon tour. Non, parce que je pense qu'il faut respecter notre tour.
Les politiques pourraient aussi, c'est ce qu'attendent
les Français. Oui, mais à un moment donné, si c'est tout le monde va donner l'exemple, à un moment donné, il y aura quand même un peu moins ailleurs. Moi, je le dis, quand il y aura le vaccin qui sera autorisé, je me ferai vacciner. Si on devait considérer qu'il faut que Jadot se fasse vacciner à la télé pour que ça génère l'adhésion des Françaises et des Français, j'ai pas de souci à faire ça. Mais je suis pas certain que ce soit ce qu'attendent les Françaises et les Français. Ils veulent de la transparence, ils veulent de savoir quels sont les bénéfices de la vaccination.
Oui. Enfin, on vous a toujours pas compris très concrètement. Est-ce qu'il y a, s'il y a des personnes âgées là qui vont être les premières concernées par cette vaccination, qui ne veulent pas? Donc vous ne les obligez pas dans un premier temps. On vous dit on va voir comment évolue la pandémie.
Écoutez, moi j'ai pas de doute sur le fait que les personnes âgées dans les EHPAD qui en ont probablement ras-le-bol de pas pouvoir avoir des visites, et que les personnels qui sont au cœur de notre politique de santé publique, et on sait à quel point les EHPAD ont été maltraités en début de pandémie, je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va créer de l'adhésion. Mais pour créer de l'adhésion, il faut aussi que les Françaises et les Français comprennent dans quelles conditions elles et ils vont être vaccinés. Et aujourd'hui, le plan du gouvernement sur la vaccination est tout sauf clair.
Alors justement, sur la transparence, Amélie Carouer.
Et sur la gestion de la pandémie, la question des masques, la commission d'enquête du Sénat sur la crise du Covid-19 a pointé la responsabilité du numéro 2 du ministère. C'était donc Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Au passage, parlant de pression aussi sur l'écriture du rapport, ce qu'il a nié hein, d'ailleurs. Mais la question, elle est là. Est-ce que vous estimez qu'il peut rester à sa place?
Non. Non, il y a un enjeu de confiance essentiel dans la gestion de cette pandémie. On sait à quel point les Françaises et les Français, dans leur grande responsabilité, appliquent les règles, mais sans en comprendre parfois les tenants et les aboutissants. Et on sait à quel point le fiasco des masques a été un élément de rupture dans la confiance de la gestion sanitaire de cette pandémie.
C'est sa responsabilité ou c'est une responsabilité politique au-delà?
C'est d'abord, toujours une responsabilité politique. Mais enfin, on a quand même le patron de la santé. Hein, le patron de la santé qui nous expliquait au mois de mars que ce n'était pas nécessaire que tout le monde porte des masques, qui nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème de disponibilité, de pénurie de masques. Et en fait, on nous apprend qu'il est un des responsables du fait qu'on ait aussi peu de masques disponibles à cette époque. Je pense qu'il doit partir.
Donc, c'est dit. Une toute dernière question avant qu'on en vienne sur la loi écologie. Est-ce que vous pensez que le retard français sur le vaccin est le signal d'un échec de la recherche française? Est-ce que c'est pas inquiétant que ce ne soit pas à la fin de l'année 2021 qu'on nous attend un vaccin Sanofi?
Je pense que la recherche a fait un saut extraordinaire en un an. Je veux dire, il n'y a pas un spécialiste des vaccins qui ne se dit pas c'est extraordinaire ce qu'on a réussi à faire en un an. Moi, je regrette évidemment que ce soit que Sanofi ait pris du retard par rapport aux Américains et à d'autres. Bon, voilà, dont acte. Mais vous savez, à la fin de l'année, surtout parce qu'encore une fois, on ne connaît pas tous ces vaccins, on aura peut-être encore besoin de vaccins. Et puis je souhaite que la France participe, y compris avec ses laboratoires, à ce qu'il y ait une couverture vaccinale mondiale. Et là, c'est pas simplement les vaccins pour les pays les plus riches.
C'est ce qu'a dit le président de la République. Sur la loi, on en vient bien sûr à la loi écologie promise par le gouvernement. Emmanuel Macron recevra demain à 17h des membres de la Convention citoyenne pour le climat, Marion Mourgue.
Emmanuel Macron n'écarte toujours pas l'idée d'un référendum pour lutter contre le réchauffement climatique. S'il l'annonce demain devant la Convention citoyenne, vous dites banco et vous suivez ?
Si l'idée, c'est de renforcer la Constitution pour que chaque politique publique soit soumise à une vérification climatique, bien sûr, je soutiendrai ce référendum. Mais vous voyez bien que ce référendum, s'il était décidé, arrivera probablement dans un an, opportunément juste avant l'élection présidentielle, qui clôturera un quinquennat perdu pour le climat et pour l'écologie. Alors, et là, ça me pose problème.
On va y venir dans le détail. Amélie Carrère.
Vous, président Yannick Jadot, est-ce que avec vous, il y aurait la sortie du diesel en 2024 partout en France, en 2030 pour l'essence comme prévu à Paris, par exemple ?
Oui. Vous savez, beaucoup de pays aujourd'hui se lancent dans le fait qu'il faut sortir des véhicules thermiques parce qu'ils sont polluants, parce qu'ils contribuent au dérèglement climatique et parce qu'ils génèrent dans notre pays. Il contribue à beaucoup de morts prématurées. Mais vous savez que la pollution de l'air.
Il y a une industrie automobile quand même.
Il y a une industrie automobile, mais qui est en difficulté.
2024, vous dites.
Qui est en difficulté. Non. La fin des moteurs thermiques à la vente en France, on doit probablement s'aligner sur ce qu'a fait, sur ce qu'a lancé la Grande-Bretagne, ce que font un certain nombre de pays nordiques. Donc plutôt à l'horizon 2030. Plutôt à l'horizon 2030 sur la fin de la vente. Mm-hmm. La fin de la vente. En revanche, là où la pollution de l'air, c'est 67 000 morts dans notre pays. 67 000 morts prématurées par an dans notre pays. Donc on a, dans ce moment où il va falloir reconstruire notre économie, la question c'est sur quelle base on reconstruit cette économie. On a une pandémie qui est liée à la déforestation. La cause de très loin, la plus probable selon tous les experts. Un virus sorti de la forêt du fait de la déforestation qui met l'économie mondiale à genoux et plus d'un million et demi de morts. On a dans notre pays des Françaises et des Français qui, comme ailleurs, celles et ceux qui sont le plus vulnérables à cette pandémie sont celles et ceux qui sont déjà victimes de la pollution de l'air, des problèmes d'obésité liés à la malbouffe, des perturbateurs endocriniens. Donc il y a un champ extraordinaire de santé environnementale et de prévention qui est
ça,
un
c'est outil.
J'arrive.
Il faut les solutions.
Non, justement, j'arrive. Qui peut être un levier incroyable de progrès social et environnemental.
Alors, y a une question,
et sur le climat. Attendez, sur le climat.
C'est une émission où on pose des questions. Marion Mourgue, vous en posez
justement
une.
Justement, sur le climat, quand vous regardez ce qui a été fait depuis 3 ans, Emmanuel Macron dit « personne n'en a jamais fait autant ». Est-ce que vous reconnaissez qu'il a fait des choses ? Est-ce que vous dites, finalement, c'est un président qui
Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple.
Quand même, l'arrêt de Notre-Dame des Landes, la fin des centrales à charbon,
lesquelles
30 milliards dans le plan de relance.
Lesquels, monsieur Sportouche ?
Il n'y a aucune. Il y a un plan de fin de centrales à charbon en France, vous dites c'est faux.
Ah non, aucun cas. Il y a probablement Le Havre qui a fermé. Mais plus sérieusement.
Ce ne sont pas des mesures qui vont. 30 milliards dans le plan de relance.
Si. Non, attendez.
Yannick Jadot, qu'on comprenne bien. Vous dites ce qui est fait aujourd'hui, finalement, c'est du vent, ça n'existe pas ? Ou il y a quand même des mesures concrètes que vous connaissez ?
On va prendre 3 secteurs, si vous voulez bien. Qu'est-ce que nous dit la loi sur la rénovation thermique des logements ? Sujet essentiel de consommation énergétique, de pouvoir d'achat pour nos concitoyens et de création d'emplois d'artisans et de PME sur tout notre territoire. Essentiel. Des dizaines de milliers d'emplois. On ne fait même pas ce qui est la moitié de ce qui est inscrit dans la loi. Depuis 2015, on aurait dû rénover 2,5 millions de logements privés. On n'a pas fait la moitié. Ça veut dire du pouvoir d'achat perdu, ça veut dire des consommations énergétiques gaspillées et ça veut dire évidemment des emplois qui n'ont pas été créés. Deuxième secteur, la question des énergies renouvelables. Autre grand thème de la transition énergétique. Dans le monde aujourd'hui, 75% des nouvelles capacités de production électrique viennent des énergies renouvelables. Tout le monde sort des énergies fossiles, tout le monde sort du nucléaire.
Donc vous dites
en France, en Europe, prenons encore un exemple, un grand secteur industriel, le secteur de l'éolien offshore, les éoliennes en mer. 5000 éoliennes offshore installées en Europe. Une seule en France, et elle n'est même à l'expérimentale, elle n'est pas raccordée au réseau.
Amélie Carouer.
Il y a 15 jours, dans le vote, mais non, mais il faut expliquer non,
mais on est
les
d'accord, mais
dans le vote, dans le vote du budget, la majorité a été percutée. La filière photovoltaïque remettant en cause l'avenir de cette filière photovoltaïque.
Être percuté,
on ne fait pas le travail.
Je fais la transition. Être percuté par la crise sanitaire, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une question de timing? Je prends deux exemples. La priorité, ce n'est plus l'écologie dans plusieurs sondages en ce moment parce qu'il y a la crise sanitaire. Je vais jusqu'au bout de ma question.
Je vous en prie, madame.
Parce qu'il y a la crise sanitaire, parce qu'il y a la crise économique, etc. Je prends un exemple encore plus concret. Instaurer une taxe sur le transport aérien. Aujourd'hui, alors que ces compagnies, elles sont au bord du gouffre. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que là, dans le timing actuel, c'est possible? Est-ce que c'est réaliste d'aller plus loin?
Alors, je vous invite à regarder toutes les enquêtes d'opinion. Beaucoup d'enquêtes d'opinion, je prends Kantar, Odoxa et d'autres, mettent la protection de l'environnement et du climat toujours à un niveau extrêmement élevé.
Bien,
évidemment, derrière la pandémie, qui nous occupe tous. Derrière la pandémie, qui nous occupe tous.
C'est
la crise économique.
Mais regardez, même sur la question de la crise et du pouvoir d'achat, l'environnement reste très élevé. Évidemment, il n'y a pas d'avions qui volent, ou très peu d'avions qui volent. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas d'appliquer immédiatement une mesure sur l'aviation. Mais... vous savez, j'avais été très sensible à une tribune qui avait été faite par 800 élèves de l'aéronautique. 800 élèves de l'aéronautique qui nous expliquaient qu'évidemment leur rêve, c'était l'avion. Leur rêve, c'est la liberté que procure l'avion. C'est la liberté de voyager. Et qui disaient, mais on a compris aujourd'hui, malgré notre rêve, on a compris qu'il allait falloir réduire le transport aérien. Et ce qu'on demande... c'est que nos compétences, notre formation puissent être réorientées sur le transport ferroviaire, sur les énergies renouvelables, sur tous ces secteurs qui vont créer de l'emploi dans notre pays. Nous sommes dans un moment, il y a 12 000 milliards d'euros, de dollars, de plans de relance dans le monde. Ce que vient de dire les Nations Unies, c'est que si on met ces 12 000 milliards, notamment vers la transition climatique, on gagnera le combat du climat.
Alors, vous dites
et on
ça,
aura,
et en même temps,
on n'aura pas ces incendies, Yannick Jadot, ces
Yannick
inondations,
Jadot, vous êtes,
ces
vous dites c'est encore possible. Nicolas Hulot, dans Le Parisien, dit hier, nous avons déjà perdu le combat. Écoutez, et dans le cadre de notre rubrique Retour instantané, ce que disait Dominique Voynet en novembre 2006 à propos de Nicolas Hulot.
Le grand jury, retour instantané.
Si vous voulez me faire dire que Nicolas Hulot a été plus efficace pour alerter sur l'urgence écologique, j'en conviens. Sur le fond, c'est un excellent porte-parole, d'autant plus efficace qu'il a connu, je crois, l'évolution de beaucoup des Français. Il a commencé par considérer que ces questions étaient subalternes, étaient secondaires, et il a changé son regard sur le monde et ses habitudes individuelles. C'est pour ça aussi qu'il touche les gens.
Nicolas Hulot, qui touche les gens, est-ce qu'il manque à votre combat? Est-ce que ce n'était pas le seul qui pouvait incarner, justement, cette sensibilisation de l'opinion aux défis que vous définissez?
Heureusement que non. Heureusement que le combat de l'écologie, c'est pas le combat d'un seul homme. Vous voyez, je discutais encore hier avec Nicolas Hulot de la situation et de notre très forte inquiétude devant le conservatisme du gouvernement français sur ces enjeux-là. Donc évidemment, Nicolas Hulot a toute sa part. C'est un incroyable pédagogue, lanceur d'alerte. Mais ce dont nous convenons ensemble avec tous les écologistes et les industriels et les chercheurs et les citoyens et les salariés, c'est qu'aujourd'hui, la transformation économique, notamment conditionnée à la question climatique, c'est un extraordinaire levier pour créer de l'emploi, pour innover, pour aménager nos territoires, pour relocaliser l'économie. Et ça, c'est un beau projet, monsieur Sport.
Et bien, on poursuit cette conversation, une pause, comme le fait justement Amélie Carouer. On se retrouve dans quelques minutes pour ce grand jury de Yannick Jadot.
Pour Noël, offrez des livres XO.
Le dernier message de Nicolas Beuglé. Ce dernier message pourrait bien détruire vos plus solides certitudes. Un thriller vertigineux.
La Louve Qatar de Mireille Calmel. L'histoire d'une femme au nom à jamais maudit, La Louve Qatar. Un grand roman d'amour et d'aventure.
XO, lire pour le plaisir.
Bonjour, parlons de franchise. Vous qui êtes déjà dans l'immobilier ou pas, je vous propose d'ouvrir votre agence Stéphane Plaza Immobilier, la vôtre, avec moi. Comme ça, on profite ensemble de mon savoir-faire et de l'avenir. Si vous partagez ma vision de l'immobilier, professionnelle et un peu décalée, rejoignez-moi sur stéphaneplazaimmobilier.com.
Odette, 83 ans, nous parle du jour du Seigneur et du legs.
Que l'émission s'arrête ? Oh, ce serait inimaginable. Pour moi, la religion, c'est un héritage. Alors mon héritage, il ira au jour du Seigneur. Je leur ai fait un legs pour que mon patrimoine leur revienne quand je ne serai plus là. Ça ne me rend pas triste, ça me met en joie. Comme ça, d'autres pourront, comme moi, rester en communion avec l'Église grâce à l'émission.
Renseignez-vous sur le legs auprès de Marie-Laure, le jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75013, Paris.
Il y a l'énergie que l'on aime dépenser sans compter et l'énergie que l'on aimerait bien économiser. Grâce à Helio, concrétiser votre projet de rénovation énergétique est un jeu d'enfant. Isolation, changement de chaudière, des travaux ou démarches administratives, Helio vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet et vous avance même le montant des aides auxquelles vous avez droit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur helio.com, HE2Helio, ou appelez le 3220 et dites Helio. Service gratuit plus prix d'un appel. Conditions d'éligibilité et de ressources sur helio.com.
RTL, il est 12h30. Les infos, c'est avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Yannick Jadot demande la réouverture de toutes les activités culturelles le 15 décembre. L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Pour lui, il est aberrant que les cinémas, salles de spectacle et musées soient fermés et d'ajouter que la culture, c'est aussi l'apprentissage des enfants. Yannick Jadot qui se montre très critique sur la méthode employée par le gouvernement pour trancher, un exercice du pouvoir bunkérisé d'après lui, où seul le président et le premier ministre décident. À 10 jours de Noël, l'Allemagne se reconfine partiellement. Fermeture des commerces non essentiels, crèches et écoles jusqu'au 10 janvier. Le nombre de décès avoisine les 500 chaque jour. Dernier espoir d'accord pour le Brexit, ce coup de fil entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne. Aucun accord trouvé sur la sortie du Royaume-Uni. Des navires de la Royal Navy se tiennent prêts à protéger les zones de pêche en cas d'échec des négociations. Le football en Ligue 1, victoire de Montpellier à Lens 3-2. L'OM revient à une longueur d'avance du PSG au classement. Deuxième, Paris qui accueille Lyon ce soir à 21h, match à vivre dans RTL Foot. Et en Formule 1, Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix d'Abu Dhabi, départ à 14h10. A noter que le pilote français Romain Grosjean sera l'invité exceptionnel dont refait le sport avec Le Parisien, aujourd'hui en France. Rendez-vous à 19h30 avec Isabelle Langer. Pour l'heure, RTL, il est 12h32, tout de suite le grand jeu continue avec Benjamin Sportouche.
Enfin au livre de poche, le livre événement de Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains. Pourquoi le célèbre écrivain Nathan Fowles a-t-il subitement arrêté d'écrire ? 20 ans après, une jeune journaliste fait irruption chez lui, bien décidée à percer son secret. Commence alors un dangereux face à face. La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso au livre de poche.
La passion de Nadia, c'est le piano. Et elle pourra s'y consacrer davantage car elle part bientôt à la retraite. Mais comme elle a exercé plusieurs métiers dans sa vie, elle espère que les démarches pour la demander ne seront pas trop complexes. Ça, c'était avant de connaître l'espace personnel de l'assurance-retraite.fr où Nadia peut faire une seule demande pour toutes ses retraites 6 mois avant son départ et sans se déplacer. Pratique, surtout en cette période.
Demander sa retraite, c'est simple, sur l'assurance-retraite.fr. Ma retraite de la sécurité sociale, c'est sur l'assurance-retraite.fr.
J'aime quand les fêtes approchent et que mon menu de Noël prend doucement forme. J'aime quand on commence à compter les jours et quand j'imagine ma petite famille s'émerveiller de l'apéritif au dessert. Vous aussi, imaginez votre réveillon dès maintenant avec la sublime collection de produits festifs Picard. Et préparez votre menu en toute sérénité. Nos magasins sont ouverts le dimanche 13 décembre toute la journée. Pensez aussi à la livraison à domicile sur picard.fr. Picard, le plaisir s'invente chaque jour. Pour votre santé, évitez de grignoter.
BMW. Gérer les rendez-vous, s'occuper des enfants, faire ses courses de Noël. Pour les sportifs du quotidien, il y a la BMW Série 1 édition sport. Jante 17 pouces, siège sport, projecteur LED, dès 295€ par mois. Découvrez-la avant le 31 décembre, ainsi que des offres exceptionnelles sur une sélection de BMW neuves et d'occasion disponibles immédiatement. Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale.
Exemple pour une BMW 1/16 édition sport avec majoration du premier loyer de 2600€, LLD 36 mois, 30 000 km dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmw.fr.
Natacha Calais Trémé nous parle de son livre « La clé de votre énergie », déjà 200 000 lecteurs.
Vous ne le savez peut-être pas, mais derrière chaque épreuve, amour, santé, travail, se cache une perte d'énergie. J'ai mis au point 22 protocoles qui ont changé ma vie et vont changer la vôtre. Des clés pour vous libérer de fardeaux émotionnels, de culpabilité, mais aussi de douleur et d'angoisse. Vous allez récupérer votre énergie et gagner en sérénité.
À offrir et à s'offrir. Le best-seller de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Mourc du Figaro et Amélie Carouer de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Oui, parlons 5G. Stéphane Richard, qui était l'invité de RTL vendredi, a dit qu'il n'y aurait pas d'antenne là, en somme, où les maires ou les villes n'en veulent pas. Est-ce que vous prendriez, vous, la responsabilité de déconnecter potentiellement des millions de Français de cette nouvelle technologie ?
Avec la 5G, on nous promet une révolution technologique, une révolution numérique. Est-ce que c'est une révolution numérique et technologique pour les utilisateurs lambda du numérique ? De ce que j'entends des professionnels, non. Non. La 5G, c'est d'abord un outil pour nos politiques industrielles, pour savoir comment on va produire nos biens, comment on va produire nos services. Moi, j'ai la conviction que cette nouvelle technologie peut potentiellement servir la transition écologique avec l'identification des gaspillages, des utilisations, les smart cities. Il y a incontestablement dans la révolution numérique un levier pour favoriser.
Bah donc vous êtes pour Yannick Jadot. C'est comme s'il y avait une utilisation sélective de la 5G.
Non, ce que je trouve extraordinaire, c'est deux choses. Un, on nous dit que c'est une révolution pour tout le monde, sans l'expliquer. Sans qu'il y ait le début d'un débat public pour expliquer qui va en bénéficier. Je pense que c'est une erreur démocratique dans ce moment de défiance vis-à-vis de la politique. Deuxième chose, nous avons des études de nos agences en matière de santé, comme en matière d'évaluation des impacts climatiques, qui vont produire des rapports. Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas ces rapports ? Troisièmement, à partir du moment où on déploie une nouvelle technologie, on ne peut plus, dans le monde d'aujourd'hui, s'affranchir des effets sur le climat. On ne peut plus, aujourd'hui, organiser des transformations économiques sans savoir quel va être l'impact sur le climat. C'est irresponsable. Quatrième point. Moi, je suis pour sortir Huawei d'Europe. Je vous le dis très clairement.
Donc,
Huawei, entreprise chinoise liée à l'État chinois, grande, puissante, extrême dictature aujourd'hui.
Donc vous, président, vous rentrez en guerre avec la Chine en disant,
mais
interdisant
Huawei. Ouais, enfin,
non, mais en guerre commerciale, Yannick Jadot, ça serait quand même une décision très importante de dire on boycotte Huawei, il ne rentre plus sur le territoire.
La Chine est dans une guerre commerciale dans le monde. Quand ils rachètent nos ports, quand ils rachètent nos sociétés d'énergie, quand ils organisent ce qu'on appelle la route de la soie, c'est-à-dire un programme d'investissement public dans l'Europe, notamment orientale, qu'est-ce qu'ils font ? Ils organisent une hégémonie politique pour, y compris, pouvoir massacrer les Ouïghours sans que personne ne lève le petit doigt. Eh bien, moi, je ne veux pas d'une Europe qui, à la fois, sur un enjeu technologique majeur, perd sa souveraineté numérique, perd sa souveraineté économique, perd sa souveraineté démocratique.
Vous, président, vous interdisez Huawei, et c'est pas rien de
le dire. Je sors Huawei parce que, vous savez, la 5G va contrôler tous les enjeux. Mais c'est un choix politique.
C'est un choix politique. Marion
Mourc. Vous savez, quand j'en discute avec le commissaire breton, le commissaire européen, numérique, au niveau européen,
il vous dit banco.
Il dit il faut qu'on se donne le temps d'avoir Nokia et Ericsson comme champion européen.
Donc il faut être meilleur que Huawei. Il ne faut pas les mettre dehors, il faut être meilleur que Huawei. C'est,
oui, mais en attendant, on ne les laisse pas s'installer.
Marion Mourc.
En cette fin 2020, si on fait un peu le bilan des déclarations des maires écologistes, que ce soit sur la 5G, le Tour de France ou le sapin de Noël, est-ce que franchement ça vous a rendu service ?
Quand on est plus de 6 mois après leur élection, 6 mois de leur entrée en exécutif, quand je vois le boulot qu'ils font sur le soutien aux petites et moyennes entreprises, au commerce, sur le lancement de programmes de logements sociaux,
Sauf que les gens ont retenu
la lutte sur la. Oui, mais c'est l'important, c'est ce qu'ils font. L'important, c'est ce qu'ils font. Sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Dans toutes les municipalités, pas simplement celles que gèrent les écologistes, vous avez une explosion des files d'attente pour avoir des colis alimentaires. Vous avez une explosion des demandes de RSA. Vous avez une paupérisation. On est en plein hiver. Vous avez tellement de ménages français qui ne se chauffent plus, qui ne payent plus leur loyer. Et quand je vois l'action des maires écologistes, eh ben j'en suis très fier.
C'est pour ça qu'on qu'ils pourraient se consacrer à la pauvreté plutôt qu'à l'arbre de Noël devant la mairie de Bordeaux.
Oui, mais ça, c'est franchement, 5 mois après, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Il y a des sapins partout à Bordeaux, donc il n'y a pas de problème. Mais en revanche, plus sérieusement, quand je vois à quel point la pauvreté et les quartiers, les zones rurales, sont un angle mort de tout le plan de relance porté par le gouvernement, je dis que là, c'est bien plus grave que n'importe quel sapin de Noël.
Un milliard pour les banlieues dans le plan de relance, ça semble insuffisant.
Vous avez vu, je vous renvoie aux maires, qu'ils soient d'Allonne ou de Chanteloup, qui ont évalué la mise en œuvre du plan Borloo. Ils lui ont donné 3 sur 20 à la mise en œuvre du plan Borloo. Tout ce qui est annoncé, la plupart des mesures, ne sont pas mises en œuvre. Moi, ce que je demande, c'est la création de 25 000 postes d'adultes relais.
C'est quoi des adultes relais?
Alors, les adultes relais, ce sont des postes ou qui viennent en soutien, notamment dans le maillage associatif, social, républicain des quartiers. Aujourd'hui, on en a 4 000. Il en faut 25 000 sur les 250 quartiers les plus en difficulté. Encore une fois, c'est du maillage social et républicain. On sait à quel point on en a besoin, et du point de vue social, et du point de vue républicain. De la même façon, il y a quelques... à la sortie de l'été, j'avais appelé le ministre de l'économie, le gouvernement et le président de la République à mettre en place un programme de relance de 30 milliards bénéficiant principalement aux ménages les plus pauvres pour faire du chèque alimentaire, pour faire du chèque énergie, du chèque transport. Et je suis très heureux de voir, je finis juste, que l'Institut Montaigne, think tank plutôt classé libéral, et que le think tank Terra Nova sont sur les mêmes logiques. Il nous faut redonner du pouvoir d'achat aux plus en difficulté d'entre nous.
Alors, vous parlez de maillage républicain, et donc, quand on vous dit maillage républicain, on pense à la laïcité. Et on se dit...
Ce n'est pas que ça, alors, la République,
justement, oui,
attention.
Ce n'est peut-être pas que ça, mais c'est notamment cela. Et il y a eu, cette semaine, la présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi baptisé auparavant lutte contre les séparatismes, et qui était devenu un projet de loi confortant les principes républicains. Et se pose la question, notamment dans la majorité, via un amendement qui pourrait être déposé, sur le fait d'interdire le voile pour les fillettes. Très concrètement, sur cette question-là, Yannick Jadot, êtes-vous pour ou contre ce genre d'amendement pour interdire le voile aux fillettes à partir de 6 ou 7 ans?
Non, je suis contre. Je suis pour que, à l'école, les filles ne portent pas le voile. Dans la vie privée, l'application stricte de la loi sur la laïcité, c'est évidemment la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est la neutralité de l'État. Vous savez,
À 6 ans, ça ne vous choque pas si jamais une petite fille porte un voile?
Aurore Berger, de la majorité, parle même d'enfants de 2 ou 3 ans.
Écoutez, ne s'installe pas dans certains quartiers l'islamisme radical. Parce que l'État a déserté. Mais attention, moi je reprendrai même l'expression de Gérard Larcher. Gérard Larcher, il a déclaré la loi doit protéger la foi tant que la foi ne dicte pas la loi. Et bien je trouve que c'est un principe fort et clair.
Amélie Carouer. Mais justement, quand vous dites ça, on se dit, le voile pour les fillettes, est-ce que ça vient pas conforter ce que
dans
dit
l'espace,
Gérard Larcher?
Mais il y a... encore une fois, à l'école, d'accord, c'est interdit, c'est une bonne chose.
Mais pas dans
l'espace privé.
Non, mais on vous parle dans la rue, par exemple.
Voilà. Attendez, la laïcité, c'est très clair. Enfin, moi, je vous invite à être extrêmement soucieux.
Il y a des petites filles, on nous dit-on, ou alors vous nous dites que c'est faux, qui ne vont pas à l'école.
Ça, c'est autre chose.
Parce qu'elles veulent rester voilées.
Attendez, vous mettez le voile au milieu de plein d'autres sujets. Attention. La laïcité, elle est forte. Vous voyez bien que, y compris le gouvernement, est complètement en train de revenir sur l'obligation de scolarisation à partir de 3 ans, parce qu'ils se rendent compte que les quelques cas particuliers qu'il faut traiter, attention, qu'il faut traiter de déscolarisation, ne correspond pas à l'extrême majorité.
Mais dans la rue, on fait ce qu'on veut. C'est ça que vous nous dites.
Dans la rue, vous avez des lois qui interdisent le voile intégral parce que ça ne permet pas un certain nombre de choses de reconnaissance, machin. Mais je vous rappelle que la loi de la laïcité est extrêmement claire. Dans l'espace public, peuvent s'exprimer des diversités, et y compris des diversités religieuses.
Amélie Carouer. Sur les burkinis dans les piscines, vous n'en vouliez pas. Ça a déclenché une polémique même dans vos rangs. Est-ce que vous rediriez la même chose aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes aussi un incompris sur ce point-là, notamment chez les vôtres ?
Enfin, je veux dire, quand on pose la question de ce groupe, cette association qui était rentrée dans la piscine de Grenoble avec le burkini, là, on est dans une logique de prosélytisme. Et cette logique de prosélytisme, il faut la combattre. Que maintenant, prenons un peu, si vous voulez, prenons un peu de hauteur, parce que si on remet dans ce moment de nécessité républicaine, vous le savez, j'ai dit à quel point il faut être sans faille dans le combat contre les ennemis de la République. Bien avant ce gouvernement, le président de la République, j'ai fait un certain nombre de propositions sur les ingérences étrangères, sur le contrôle des financements, sur le contrôle des associations.
C'est ce qui est prévu dans ce projet-là que vous ne voteriez pas, Yannick.
Sur la formation des imams.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'incohérence ? Vous nous dites, j'avais proposé des choses qui d'ailleurs figurent dans ce projet de loi, notamment sur le financement étranger, et vous avez dit en même temps, sauf erreur de ma part, que vous ne le voteriez pas si vous étiez député.
Parce que moi, ce que j'attends, parce qu'il faut marcher sur deux jambes. Un, j'attends, vous savez, ma seule boussole, c'est l'efficacité dans ce combat.
Et donc, il y aurait zéro efficacité.
C'est pas d'ajouter une loi tous les ans. Et j'ai même lu Rachida Dati ce matin dans un journal.
Vous citez beaucoup la droite, là, désormais.
Non, parce que c'est intéressant. Parce que, si vous voulez, quand Rachida Dati dit « Attention, on ajoute des lois, c'est des postures, c'est de l'affolement, c'est de la gesticulation », c'est intéressant, elle a été ministre de la justice, Rachida Dati.
Voilà. C'est peut-être une future coalition que vous voulez mettre.
Je veux dire, c'est que quand vous avez la défenseuse des droits, quand vous avez le président du Conseil constitutionnel, quand vous avez la Commission nationale sur les droits de l'homme, quand vous avez la Commission européenne, quand vous avez des commissions des Nations unies sur les droits de l'homme qui s'inquiètent de ce qui se passe en France, il faut entendre les garants de l'état de droit et des libertés fondamentales. Il faut les entendre parce qu'il faut combattre, je l'ai dit, sans trembler, les ennemis de la République, mais sans revenir sur nos libertés fondamentales, parce que ça serait un coup de menton, ça serait une gestion.
Vous soutenez la Ligue des droits de l'homme, par exemple. Vous êtes un défenseur de la Ligue des droits de l'homme.
Ce que ça veut dire, je soutiens. Je pense que la Ligue des droits de l'homme joue une place importante dans l'expression des droits de l'homme.
Quand vous entendez l'avocat Ari Halimi, qui fait partie du Bureau national, écrire sur Twitter « Les laïcistes sont à la laïcité ce que les islamistes sont à l'islam », qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je ne sais pas. Posez-lui la question à lui. Moi, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire là-dedans. Mais attendez.
Parce qu'on dans vos rangs, c'est parfois. Est-ce que c'est le genre de propos que vous entendez dans vos rangs ou pas?
Mais non, les écologistes, comme tous les Français, ils sont républicains, ils sont laïcs. Aujourd'hui, tout le monde, et j'espère que tout le monde dans ce pays, va en finir avec les complaisances. Vous parlez de la droite, quand le président de la République.
Vous en parlez.
Oui. Non, quand le président Sarkozy a sacrifié notre enseignement de terrain, quand il a supprimé 13 000 postes dans la police, quand il a supprimé la police de proximité, quand il se congratulait avec les Qataris que les Qataris mettent des dizaines de millions dans
là,
nos quartiers.
Vous prenez une partie de la droite.
Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que la droite, sur ces sujets-là, n'a absolument aucune leçon à donner, ni en matière de lutte contre l'islamisme, ni en matière de lutte pour la protection républicaine, pour la sécurité. Vous vous rendez compte quand même que la guerre en Libye, faite dans ces conditions-là dramatiques, a armé tous les terroristes du Sahel. Vous vous rendez compte que nos différents gouvernements sont en permanence complaisant vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et de l'exportation du wahhabisme, complaisant vis-à-vis du Qatar et de ses liens avec les frères musulmans. C'est grave.
On vous
ça,
entendu. C'est l'heure de questions express.
Le grand jury, question express.
Pour ou contre, Yannick Jadot, le paiement des frais des policiers accusés du tabassage de Michel Zecler par la préfecture de police de Paris?
Non.
Pour, donc vous êtes contre, donc.
Oui.
Pour ou contre l'instauration d'un système de retraite à points d'ici 2022?
Non.
Vous êtes contre, alors que vous aviez dit à ce même micro que, que vous étiez pour un système de retraite universelle, mais pas tout de suite. C'est ça ce que vous dites.
Voyez l'état de ce pays.
D'accord.
Ce pays, les Françaises et les, non, attends, les Françaises et les Français sont fracassés par la crise. Ils sont angoissés. Mmh. Ils sont inquiets pour leurs enfants. Et quand j'entends le gouvernement dire on va remettre le chantier de la retraite comme de l'assurance chômage, c'est totalement irresponsable.
Yannick Jadot,
ça va nous fracturer plus que nous rassembler.
Pour ou contre un porte-avions nucléaire?
Alors ça, c'est une question complexe. Je peux vous expliquer les enjeux ?
Mais très rapidement, sinon on n'aura pas le temps de parler du reste.
La France, si elle a un porte-avions, elle continue de jouer dans la première division au niveau mondial sur la capacité à exporter une flotte. OK ? Donc ça peut être un élément positif. Ça peut être aussi un élément très positif si on continue à en faire un outil autour d'une service, au service d'une politique de défense européenne. En revanche, ce que j'entends aussi dans l'armée, c'est qu'on n'a plus d'hélicoptères. Il nous manque des porte-aéronefs.
Vous êtes dans le même temps.
Mais non, parce que c'est pas... Enfin, franchement, quand on met des milliards sur...
C'est entendu,
sur,
Yannick Jadot, c'est du pour ou contre. Sinon, on ne s'en sortira pas. On y reviendra à cette question.
Si franchement, la politique de défense française, c'est pas pour ou contre.
Bah non, mais
c'est
ça,
un
c'est
enjeu essentiel
vous dites,
de la place
vous,
non, de la France
vous entendu,
dans le monde.
Vous dites, c'est partagé, et qu'il y a d'autres choses à prendre en considération.
Exactement.
Dans l'armée. Pour ou contre un moratoire sur la construction d'entrepôts Amazon dans le pays?
Oui.
Donc pour un moratoire. Enfin,
parce qu'à un moment donné, ça tue les
vous
petits commerces, ça tue les libraires.
Très bien.
Et qu'à un moment donné, quand on se retrouvera avec des surfaces de 10 000 m2, abandonnées, les salariés abandonnés.
Pour ou contre des listes d'alliances PS Vert dans toutes les régions de France aux prochaines élections régionales?
Au second tour.
Au second tour, pour ou contre le Front Républicain contre le Rassemblement National en toutes circonstances?
On a toujours exercé cette responsabilité.
Donc vous continuerez. Alors on en vient justement au régional et l'impact que ça pourrait avoir politique pour vous. Amélie Carouère.
En termes d'impact, on va aller directement à 2022. Est-ce que nous avons devant nous le candidat écologiste de la présidentielle 2022?
Alors, je pense que les Françaises et les Français qui nous écoutent, qui nous regardent et qui nous liront demain... leur sujet, c'est Noël, c'est la pandémie, c'est les enfants, c'est certainement pas la course.
Il l'a largement évoqué.
Simplement la course.
C'est la
responsabilité. Moi, j'ai dit, je m'y prépare. Je m'y prépare parce que je pense que nous avons besoin, dans notre pays, en 2022, d'une alternative, qui soit une alternative enthousiasmante, qui nous redonne collectivement de l'espoir pour créer du boulot, pour retrouver de l'égalité entre les territoires, pour retrouver le contrôle de nos vies, nos déplacements, notre logement, l'urbanisme, notre alimentation, l'agriculture. Quand je dis que notre projet est un projet de relocalisation de l'économie, vous voyez bien
Marion
que
Mourier.
Si on veut
juste
une société ouverte, il nous faut cette alternative.
Vous avez dit en août dernier, dans Libération, vous expliquez que l'écologie devrait avoir sa candidature avant janvier. Janvier, c'est dans 15 jours. Donc
ça,
concrètement,
c'est réglé,
comment ça se passe
pas le cas.
Donc pas de candidat en janvier et pas de candidat des Verts avant des mois.
Ça vous convient, ça?
Je souhaitais qu'effectivement, à la rentrée, y compris parce que la perspective, c'était de parler du plan de relance, c'était de parler du monde d'après, c'était de parler d'une nouvelle phase, d'un nouveau cycle politique dans notre pays, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel rebond de la pandémie. Bon, ça, c'est sorti. Ça n'est plus d'actualité.
Donc,
ce que j'ai dit, c'est que si nous voulons gagner en 2022... Et nous avons l'impérieuse nécessité de gagner, et nous pouvons gagner. Il nous faut une candidature unique d'un rassemblement qui va entre Mélenchon et Macron. Et ce que j'ai dit, c'est que les Verts, Europe Écologie Les Verts, a défini son dispositif de désignation d'une candidature écologiste. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que toutes ces étapes intermédiaires devront être réévaluées sur un seul objectif. se rassembler pour gagner.
Alors,
quand
attendez,
j'entends,
non,
quand j'entends tout, entre les écologistes et les socialistes.
Mais on ne comprend pas ce que vous dites là. Ça veut dire très clairement, non, Yannick Jadot, ça veut dire très clairement, c'est que si vous estimez que ce système des primaires peut nuire à une candidature verte, eh bien on ne fait pas de primaires.
Non, non, vous n'avez pas compris.
Et Yannick Jadot, ça veut dire que est-ce que vous pourriez partir à la présidentielle sans avoir le soutien d'Europe Écologie Les Verts et en dehors de la primaire?
Non, moi je ne veux pas.
Ça, c'est,
moi,
vous n'irez pas.
Je veux que les écologistes participe à un grand rassemblement qui ira entre Mélenchon et Macron, qui réunira les humanistes, les progressistes de ce pays, qui en ont marre de cette façon de gouverner, de ce programme de régression sociale et de régression écologique, qui ne veulent évidemment pas l'extrême droite. Eh bien, cette primaire, elle est prévue pendant 10 mois.
Oui.
Si à un moment donné, collectivement, nous pensons que cette primaire ne sert plus à un rassemblement entre Mélenchon et Macron, eh bien, il faudra se poser la question de sa pertinence.
Mais ça pourrait être une autre personnalité que vous qui incarne ce rassemblement de Macron à Jean-Luc Mélenchon, et auquel cas vous l'accepteriez?
Qui?
Alors ça, je vous pose la question.
Avec une autre candidature, mais pour l'instant, on n'est pas au moment des candidatures. Moi, ce que je veux, c'est que toutes celles et tous ceux qui croient en ce projet-là se rassemblent. Et que toutes celles et tous ceux qui croient en ce projet-là arrêtent d'instiller
le
poison de la
division. Ça veut dire une primaire plutôt prévue plutôt qu'en décembre. Vous dites, à ce moment-là, il faudra peut-être la faire juste après les régionales.
Là, on est parti pour faire les régionales. Monsieur Sportouche, on est parti pour faire les régionales.
Alors, juste après les régionales,
après les régionales,
quoi qu'il arrive, candidat à cette primaire.
Pour l'instant, il y a la primaire. Pour l'instant, il y a la primaire.
Vous serez candidat.
Je le dis, que je me prépare. Le moment n'est pas le moment des candidatures.
Enfin, on n'a pas compris si vous étiez candidat à la primaire verte ou si vous étiez candidat directement à l'élection présidentielle.
Ah non, j'ai dit que je ne contournerai pas Europe Écologie Les Verts.
Et donc,
je souhaitais que collectivement, puisque c'est dans 10 mois, on se pose en permanence la question.
Et si vous n'êtes pas désigné, si vous n'êtes pas désigné,
mais on verra. Je suis pas encore candidat. Me posez pas la question de savoir si je serai pas désigné.
Est-ce que vous rentrez derrière un candidat écolo quel qu'il soit?
Mais si je ne vais pas à l'élection présidentielle, je soutiendrai évidemment la candidature écologiste.
Si vous n'y allez pas. Bon, écoutez, au cours d'une prochaine émission, on y verra peut-être encore plus clair. C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Vous entretenez le flou. Tout de même, Yannick Jadot.
Mais bonjour, non, Marie-Pierre c'est tout à fait clair.
Oui,
ce qui est clair, c'est
les auditeurs et les spectateurs se font une religion.
Les Françaises et les Français ont d'autres priorités.
Enfin, ils aiment savoir qui leur parle.
Le moment n'est pas venu des candidatures.
Marie-Pierre Adam.
Ils veulent des réponses à leurs difficultés.
Cette semaine, le maire de Béziers, Robert Ménard, a annoncé sur Twitter qu'il avait installé une crèche de Noël devant la mairie de sa ville et des élus de gauche s'insurgent contre cette crèche au nom de la laïcité. Est-ce que pour vous, c'est une provocation de la part de Robert Ménard ou alors vous estimez que c'est son choix?
Monsieur Ménard aujourd'hui mène un combat contre les musulmans et de notoriété publique. Moi, c'est pas le problème de la crèche qui me soucie. C'est le combat de Robert Ménard contre une partie de nos concitoyens.
Ça s'inscrit dans un combat.
Mais bien sûr, ça s'inscrit dans un combat qui est un combat d'exclusion, qui est un combat qui n'est pas à la hauteur des valeurs de la République.
Autre question, Marie-Pierre.
Oui, le magazine américain Time a choisi de mettre en une la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré, donc qui mène un combat contre les inégalités raciales. Elle a été élue par le magazine comme la gardienne de l'année 2020. Est-ce que c'est un choix que vous soutenez ou au contraire, vous le trouvez clivant? Parce que certains internautes, eux, ont estimé que ça aurait dû être Samuel Paty en une.
Écoutez, que les internautes français s'interrogent sur la couverture du Time, c'est toujours intéressant, mais ce n'est pas les Français qui décident. En revanche, ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est qu'il y a un incroyable sursaut de la société contre le racisme. C'est une excellente nouvelle. Cette prise de parole des victimes du racisme, c'est une excellente nouvelle pour notre société. Et ce sera un sujet, la lutte contre les discriminations, qui est impérative dans notre société, qui est absolument impérative dans notre société.
Merci beaucoup Yannick Jadot, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir
suivis.
Merci à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.